Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, portrait de Philippe Roth. Figure emblématique de la littérature contemporaine, adorée des lecteurs français, Philippe Roth a publié 31 livres. Petit-fils d'immigrés, il est né en 1933 dans le New Jersey. Il fait des études littéraires à l'Université de Chicago. En 1959, il publie son premier roman, Goodbye Columbus, qui lui vaut le National Book Award. En parallèle à l'écriture, il mène jusqu'en 1992 une carrière d'enseignant de littérature à l'Université de Pennsylvanie. Philippe Roth écrit aussi bien des nouvelles que des romans. Son style est souvent provocateur, voire outrancier, mais le public suit toujours l'écrivain. Chacun de ses livres atteint des records de vente partout dans le monde. Sarcastique, d'une liberté de ton totale, Philippe Roth ressasse les mêmes thèmes, le sexe, l'autofiction, la psychanalyse, le poids de l'histoire, la place du judaïsme dans la civilisation occidentale, la mort et la hantise de la désagrégation du corps. Une angoisse qui traverse un de ses livres majeurs, sobrement intitulé « Un homme ». Extrait.
Le lendemain matin, de bonne heure, il prit le volant pour se rendre tout seul à l'hôpital, où il attendit au service chirurgie dans une antichambre vitrée, avec une douzaine d'hommes vêtus comme lui de blouses stériles et qui feraient partie de la première série d'opérations ce jour-là. La salle ne désemplirait sans doute pas avant 4 heures de l'après-midi. La plupart des patients ressortiraient de l'hôpital, mais au fil des semaines suivantes, certains pourraient bien y rester. Et pourtant, il tuait le temps en lisant les journaux du matin. Et quand on appelait le suivant, il se levait pour partir au bloc, léguant ses pages de journal à qui les voulait. À voir le calme qui régnait, on aurait cru que ces hommes allaient se faire couper les cheveux plutôt que, comme lui par exemple, un bout d'artère irriguant le cerveau. À un moment, l'homme assis à côté de lui et qui venait de lui tendre la page des sports se mit à lui parler à mi-voix. Il n'avait sans doute pas plus de 48-50 ans, mais sa peau était cireuse et sa voix sourde, dénuée de toute assurance. « J'ai d'abord perdu ma mère, » dit-il. 6 mois plus tard, c'était mon père. Je n'avais qu'une sœur. 8 mois plus tard, voilà que c'est son tour. 1 an plus tard, mon mariage s'est défait et ma femme m'a pris tout ce que j'avais. Alors là, j'ai commencé à m'imaginer que quelqu'un venait me trouver en disant « Maintenant, on va vous couper le bras droit. Vous pensez que vous pourrez vous y faire ?» Et les voilà qui me coupent le bras droit. Un peu plus tard, ils reviennent me dire « On va vous couper le bras gauche cette fois. » Et puis, une fois qu'ils l'ont coupé, ils reviennent un autre jour me dire « Vous voulez dire stop maintenant? Vous avez votre compte ou on passe à la jambe ?» Et moi, je me disais « Quand est-ce que j'arrête? Quand? Quand est-ce que j'ouvre le gaz et que je me mets la tête dans le four? Quand est-ce que je dis basta ?» C'est comme ça que j'ai vécu, avec mon chagrin pendant 10 ans. J'ai mis 10 ans à m'en remettre, et maintenant que j'ai quand même fini par m'en remettre, voilà cette merde qui commence.
Autre thème récurrent chez Philippe Roth, la déconstruction du rêve américain. Dans sa trilogie composée de Pastorale américaine, J'ai épousé un communiste et La tâche, il démonte le rêve américain, fustige le politiquement correct. Et pour mieux dénoncer l'absurdité de la société américaine, il se crée un double de papier, Nathan Zuckerman, un juif obsédé par les femmes. Ce personnage apparaît dans plusieurs de ses romans. L'écrivain des ombres, Zuckerman délivré, La leçon d'anatomie, La contre-vie ou Pastorale américaine. Nathan Zuckerman est aussi le protagoniste du roman La tâche, livre qui sera récompensé par le prix Médicis étranger en 2002. En 1969, avec Portnoy et son complexe, Philippe Roth crée le scandale. le livre est une longue confession de son héros, aux prises avec sa judéité et ses pulsions sexuelles. Portnoy s'en prend avec virulence tour à tour à son père, à sa mère, et désingue l'amour comme grand sentiment. Écoutons Portnoy.
Ce qui me terrifiait le plus à propos de mon père, ce n'était pas la violence que je m'attendais à le voir déchaîner passagèrement contre moi, mais la violence que je souhaitais chaque soir au cours du dîner exercer aux dépens de sa carcasse de barbare ignorant. Comme j'avais envie de l'expédier, hurlant à de patresse quand il mangeait en se servant dans le plat avec sa fourchette ou lapait la soupe dans sa cuillère au lieu d'attendre poliment qu'elle refroidisse ou tenter, à Dieu ne plaise, d'exprimer une opinion sur un sujet quel qu'il fût. Et ce qu'il y avait de particulièrement terrifiant dans mes vœux meurtriers tenait à ceci. Si j'essayais de les réaliser, il était probable que je réussirais. Il était probable qu'il m'y aiderait. Je n'aurais qu'à bondir par-dessus la table servie, les doigts tendus vers sa trachée artère, pour qu'il s'effondre instantanément sur la table avec la langue pendante.
Portnoy n'est pas plus tendre avec sa mère.
Ma mère ne travaille pas. Ma mère, qu'on s'en souvienne, patrouille les 6 pièces de notre appartement comme un groupe de guerrieros se déplace dans son propre territoire. Il n'est pas un de mes placards ou de mes tiroirs dont elle n'ait photographié dans sa tête le contenu.
Et au sujet de l'amour, il se montre plutôt décapant.
L'aimer ? Toi, tu veux rire. C'est toi-même que tu aimes, mon petit. Voilà comment, moi, je l'appelle toi-même, en capitale. Ton cœur n'est qu'un réfrigérateur vide. Ton sang coule en petits cubes. Je m'étonne que tu ne tintes pas quand tu marches. L'amour, il s'appelle lubricité, il s'appelle moi tout seul.
Encore heureux, portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B. Philippe Roth a reçu de nombreux prix, dont le prix Pulitzer en 98 pour Pastorale américaine, le prix du meilleur livre étranger, le prix Franz Kafka, le prix Médicis étranger, le prix international Man Booker ou encore le prix Prince des Asturies de littérature. En 2013, il est fait commandeur de la Légion d'honneur. Tout récemment, il entre dans la Pléiade, la prestigieuse collection de Gallimard, aux côtés de Faulkner, Hemingway et Fitzgerald. Cependant, en 2010, Philippe Roth annonce qu'il arrête l'écriture et que Némésis sera son dernier roman. Un journaliste du Monde l'interpelle à ce sujet.
Philippe Roth, vous avez dit que si vous aviez eu des enfants, vous leur auriez conseillé de ne pas devenir des écrivains. Pourtant, vous, vous avez voulu être écrivain.
Quand on décide de devenir écrivain, on n'a pas la moindre idée du genre de travail que cela représente. Quand on commence, on écrit spontanément à partir de son expérience assez limitée du monde non écrit et du monde écrit. On est plein d'une exubérance naïve. Je suis un écrivain. C'est une joie du même genre que j'ai quelqu'un dans ma vie. Mais y travailler jour après jour, ou presque pendant 50 ans, que ce soit être écrivain ou amant, est une tâche d'une exigence extrême. C'est loin d'être la plus agréable des activités de l'homme.
Étiez-vous heureux d'avoir pris cette décision de devenir un écrivain ?
Évidemment. J'appartenais à une génération d'écrivains américains nés dans les années 30. Nous arrivions après Hemingway. Nous étions enivrés par l'ardeur de Gustave Flaubert, la profondeur morale de Joseph Conrad, la majesté des compositions de R.N. James. Et nous étions convaincus que nous embrassions un métier sacré. Les grands écrivains étaient pour nous les saints de l'imaginaire. Et moi aussi, je voulais être un saint.
Généralement, les écrivains qui cessent d'écrire ne le disent pas, contrairement à vous, Philippe Roth.
Oui, c'est vrai. Ils ne veulent pas que l'on sache que leur magie n'opère plus. Je ne suis pas vraiment allée le clamer sur les toits non plus. Une jeune femme est venue m'interviewer pour un magazine français. Vers la fin de l'entretien, elle m'a demandé « Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?» Et je lui ai répondu « Sur rien du tout. » Elle m'a demandé « Pourquoi cela ?» Et je lui ai dit « Je crois que c'est fini. Je n'écris plus de fiction, non. Aujourd'hui, j'écris des pages et des pages de commentaires pour mon biographe. Mais ce n'est pas de la fiction, ça ne peut pas en être, car il n'y a là-dedans aucune détresse.
Donc, après vous être relu, vous avez estimé que vous aviez fait du bon travail et que vous pouviez arrêter ?
Je ne me suis pas dit « c'est bien » ou « ce n'est pas bien ». C'est venu comme ça, sans raison. Je n'en avais pas besoin. Je n'avais plus envie de continuer. Et je me suis arrêtée. Il n'y a rien d'autre à dire. Je n'avais plus envie de me mettre au travail. Il y a des tas de choses que je ne veux plus faire. Je ne veux plus tomber amoureux, par exemple. Sauf comme grand-père.
Vous pensez que, contrairement à ce que disent certains, le roman ne disparaît pas, mais que les lecteurs, eux, disparaissent.
C'est vrai. Le nombre de vrais lecteurs, ceux qui prennent la lecture au sérieux, se réduit. C'est comme la calotte glaciaire. On achète toujours des livres, mais les lit-on vraiment ? Un vrai lecteur de roman, c'est un adulte qui lit, disons, 2 ou 3 heures chaque soir, et cela 3 ou 4 fois dans la semaine. Au bout de 2 à 3 semaines, il a terminé son livre. Un vrai lecteur n'est pas le genre de personne qui lit de temps en temps, par tranche d'une demi-heure, puis met son livre de côté pour y revenir 8 jours plus tard sur la plage. Quand ils lisent, les vrais lecteurs ne se laissent pas distraire par autre chose. Ils mettent les enfants au lit, et ils se mettent à lire. Ils ne tombent pas dans le piège de la télévision, et ils ne s'arrêtent pas toutes les 5 minutes pour faire des achats sur le net ou parler au téléphone. Mais c'est indiscutable. Le nombre de ces gens qui prennent la lecture au sérieux baisse très rapidement. En Amérique, en tout cas, c'est certain. Les causes de cette désaffection ne se limitent pas à la multitude de distractions de la vie d'aujourd'hui. On est obligé de reconnaître l'immense succès des écrans de toutes sortes. La lecture, sérieuse ou frivole, n'a pas l'ombre d'une chance en face des écrans. D'abord l'écran de cinéma, puis l'écran de télévision, et aujourd'hui l'écran d'ordinateur qui prolifère, un dans la poche, un sur le bureau, un dans la main, et bientôt on s'en fera greffer un entre les 2 yeux. Pourquoi la vraie lecture n'a-t-elle aucune chance ? Parce que la gratification que reçoit l'individu qui regarde un écran est bien plus immédiate, plus palpable et terriblement prenante. Hélas, l'écran ne se contente pas d'être extraordinairement utile, il est aussi très amusant. Et que pourrions-nous trouver de mieux que de nous amuser ? La lecture sérieuse n'a jamais connu d'âge d'or en Amérique. Mais personnellement, je ne me souviens pas d'avoir connu d'époque aussi lamentable pour les livres. Avec la focalisation et la concentration ininterrompue que la lecture exige. Mais demain, ce sera pire, et encore pire après-demain. Je peux vous prédire que dans 30 ans, sinon avant, il y aura en Amérique autant de lecteurs de vraie littérature qu'il y a aujourd'hui de lecteurs de poésie en latin. C'est triste, mais le nombre de personnes qui tirent de la lecture plaisir et stimulation intellectuelle ne cesse de diminuer.
Vous insistez sur la difficulté d'écrire, la frustration. N'y a-t-il pas de plaisir à terminer un livre ?
Si. C'est un plaisir qui dure à peu près 1 semaine et demie. Quand on termine un roman, on a un sentiment de triomphe, mais ça ne dure pas plus de 10 jours. Le temps de comprendre qu'en écrire un autre est quelque chose de parfaitement impossible.
Dans un entretien en 2004, vous avez dit « Quand je commence un livre, je suis toujours un débutant. » Est-ce que cela a toujours été vrai ?
Toujours. Oui, toujours. On pourrait dire que l'une des raisons pour lesquelles je m'arrête, c'est qu'au bout de 50 ans, j'étais encore un amateur. Un amateur maladroit, qui manquait de confiance et qui était dans la confusion la plus totale pendant des mois et des mois chaque fois que je commençais un nouveau roman. Maintenant, j'ai de la chance. Ce n'est plus que dans tous les autres domaines de la vie que je suis un amateur.
Qu'avez-vous pensé de la phrase de Charles McGrath dans son dernier article du New York Times sur vous ? Pour ses amis, il est inconcevable que M. Roth arrête d'écrire et ce serait comme il s'arrêtait de respirer.
C'est gentil, mais c'est du romantisme. Ça me conviendrait très bien de ne plus écrire. Je serais peut-être même plus heureux. En vérité, je suis déjà plus heureux.
Sous un pli bleu, je t'envoyais la tendresse de Bernard Aimé. Tu trouvais que c'était joli, tu n'y as jamais rien compris. Je t'envoyais des chansons de brêle, celles qui frappent où le cœur se fêle. Je pensais qu'elles pourraient peut-être faire pousser un arbre au désert. Je t'envoyais des fleurs séchées, de la lavande et des pensées. Il n'y a pas d'amour heureux, disait Aragon amoureux. J'écrivais tout et sans pudeur, je me déshabillais le cœur. Je t'écris une dernière fois, c'est ma dernière chanson pour toi. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien. Je ne t'écrirai plus, le calme est revenu. La tempête a cessé, j'ai fini de t'aimer. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien. Je ne t'écrirai plus, le calme est revenu. La tempête a cessé, j'ai fini de t'aimer. Je te recopiais des poèmes, piqués à ce vieux fou du goût. Lui qui savait dire je t'aime, sans jamais avoir l'air idiot. Je me servais d'Apollinaire, et de Rimbaud, et de Verlaine. Ce rêve étrange et pénétrant, moi aussi je l'ai fait souvent. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien. Je ne t'écrirai plus, le calme est revenu. La tempête a cessé, j'ai fini de t'aimer. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien. Je ne t'écrirai plus.
Merci infiniment à Annie pour sa lecture. Chers auditeurs, je vous retrouve le 10 janvier pour un nouveau portrait d'écrivain, celui de la pétulante Amélie Nothomb. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes. À bientôt.